Mondial Sport sur RFI. Christophe Dirimzian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport, actualité, dossier, découverte comme chaque week-end pour mieux vous faire apprécier le sport sous tous ses aspects. Au menu, le trophée des champions, PSG, Rennes, rampe de lancement chinoise de la saison du foot français, enquête permanente de notoriété au-delà de ses frontières, victoire parisienne 2-1 devant un public pas si nombreux que ça. Annie Gasnier, madame Radio Foot International, et oui, sera avec nous dans un instant. Un Real pas franchement royal durant cette pré-saison de matchs amicaux, 4 défaites en 5 rencontres et encore beaucoup de pain sur la planche pour Zinedine Zidane, alors qu'à l'Atlético on a plutôt le sourire pour ce premier bilan et qu'à Valence on a frôlé la crise de gouvernance pour une histoire de transfert. Pierre Chaperon nous racontera tout ça. En Afrique, le premier tour retour des éliminatoires du CHAN 2020, affaire réglée pour le Sénégal qualifié aux dépens du Liberia. Comment faire émerger des stars du tennis sur le continent, vaste ambition portée par un grand projet lancé conjointement par la Fédération française et plusieurs fédérations africaines francophones. Tous les détails avec Eric Mamoud. Enfin, gros plan sur un grand espoir du cyclisme africain, repéré et recruté par l'équipe de Thibaut Pinot. L'Érythréen Jacob Debessaï va donner ses premiers coups de pédale en Europe au sein de la formation réserve de Groupama FDJ. Son directeur sportif, Jérôme Gana, nous en parlera. Comme chaque année, à cette époque, le football français de club est donc allé sonder l'intérêt qu'il suscite bien loin de chez lui, là où d'autres championnats étrangers ont déjà pignon sur rue. Principal Eldorado économique, bien sûr, la Chine, vivier de supporters et marché économique très important. Pour la deuxième année consécutive et pour la troisième fois en tout depuis 2014, la Ligue de football professionnel y a donc organisé son match vitrine, le trophée des champions, la rencontre de levée de rideau de la nouvelle saison entre le PSG, champion de France, et Rennes, vainqueur de la Coupe de France. Match de nouveau délocalisé cet été à Shenzhen où nous retrouvons au cœur de la nuit notre envoyé spécial Annie Gasnier. Bonsoir Annie.
Bonsoir Christophe.
Il y avait de la revanche dans l'air car le PSG a laissé filer, on s'en souvient, la Coupe de France fin avril. Petit affront lavé Annie puisque les Parisiens l'ont emporté 2-1.
Et oui, un 7e trophée des champions consécutif, un 9e dans l'histoire du club et un premier titre pour 2019-2020. Le Paris Saint-Germain commence bien sa saison. Il avait mal fini malgré son titre de champion de France, cette fameuse coupe perdue face au Rennais qui avait fait entrer le PSG dans un trou noir, nous disait avant la rencontre Kylian Mbappé. Mbappé, le jeune attaquant qui provoquait ce soir les clameurs du public à chaque prise de balle, aura donc marqué et remporter son premier trophée des champions. Les joueurs du PSG sautaient de joie sur le podium, leur coupe en main, et leur entraîneur Thomas Tuchel était donc satisfait.
C'était très très bien. La première 10 minutes était un peu compliquée pour adapter, et les dernières 10 minutes c'était aussi compliqué, ça c'est aussi normal, nous sommes fatigués, on en donne beaucoup. Si Maki il n'est pas sur le terrain, il manque parce qu'il est, world class. Et c'est comme ça. Et après, on a joué, on a fait le deuxième but. On a joué un peu trop derrière. On n'a pas joué. Mais ça, c'est seulement chose pour améliorer. Première 10 minutes et dernière 10 minutes. Entre les 70 minutes, entre les deux, je suis très, très content. On a joué très, très bien.
Heureux les Parisiens et résignés les Rennais. Ils n'étaient pas favoris, mais leur but à la 15e minute, but hors jeu selon Tuchel, mais il n'y avait pas de VAR en Chine. Leur but donc leur a sûrement donné de l'espoir. Ils ont tenu jusqu'à la 57e minute avant d'encaisser deux buts. Des regrets donc, mais aussi des enseignements avec une équipe où les absents, notamment les Sénégalais Sarr et Niang et l'Algérien Ben Sebaïni, ont beaucoup manqué, mais il y avait des jeunes. Et Clément Grenier voulait retenir le positif.
C'est pas immérité pour le PSG, mais je crois qu'on est venu là et on peut être fier de ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de points positifs, on a montré beaucoup de valeurs positives. On les a embêtés, on a respecté les consignes, on a joué avec nos armes. On sait que c'est une grande équipe avec de grands joueurs. Nous, on est venu là avec beaucoup d'humilité, mais avec une envie forte de pouvoir lever à nouveau un trophée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je crois que dans l'ensemble, on peut vraiment être fiers parce qu'on les a fait déjouer, on les a embêtés dans leur jeu. Évidemment, on a joué assez bas, mais je crois que c'est ce qu'ils n'aiment pas. Et puis sur la fin, on a malgré tout une voire deux occasions pour égaliser. Évidemment, il y a de la déception et de la frustration, mais il y a beaucoup de points positifs qui peuvent nous encourager à faire un bon début de saison.
Alors, les Rennais, ils voient effectivement des points positifs pour eux. Annie, il y a quand même un petit point négatif. C'est le public. Le match n'a pas vraiment attiré les foules. Ils n'ont pas été totalement au rendez-vous, les habitants de Shenzhen.
Non, pas vraiment. Un tiers de la très jolie enceinte du stade universitaire était pleine. Mais bon, ils chantaient, hein, ils faisaient du bruit. Et le directeur général Didier Quillot, qui s'occupe de la Ligue de football professionnel qui organise le championnat de France, se montrait, lui, plutôt content du nombre croissant de spectateurs, de téléspectateurs de la Ligue 1 ici en Chine.
Aujourd'hui, chaque journée de championnat de Ligue 1, il y a deux matchs sur CCTV en direct. Et nous avons, sur la saison 18-19, eu une audience cumulée de plus de 100 millions de téléspectateurs pour les matchs donc diffusés sur CCTV. Plus de 100 millions de téléspectateurs, c'est rien à l'échelle de la Chine, mais c'est spectaculaire, puisque c'est plus que ce que Canal+ et beIN font ensemble en France sur la saison. Et surtout, ça place la Ligue 1 numéro 3 en Chine en tant que Ligue européenne, derrière English Premier League et la Liga, mais devant la Bundesliga et devant la Serie A en matière d'audience cumulée télévisuelle. Et on a aussi signé un partenariat avec PPTV, qui est une plateforme digitale de pay TV qui permet ainsi d'avoir un scope de distribution complet entre de la télévision en clair et de la télévision payante. Voilà, dont les chiffres sont plutôt bons.
Bon les chiffres. Moins bon, le bilan carbone de la LFP qui a organisé en Chine le trophée des champions et un tournoi aux États-Unis juste avant avec 4 clubs français, soit un tiers des équipes de L1 envoyées à 10 000 km de l'Hexagone pour jouer. La Ligue a pourtant signé un accord avec l'ONG de protection de la nature WWF. La présidente de la LFP, Nathalie Bois de la Tour, assume.
Il y a deux objectifs et on cherche à répondre à deux objectifs contradictoires. C'est effectivement un objectif de développement international de la notoriété, donc la promotion de la Ligue 1 dans les pays étrangers, qui nous oblige à prendre l'avion, puisque, que je sache, jusqu'à présent, on ne peut pas venir en Chine, malheureusement, ou aller aux États-Unis en prenant le train. Donc voilà, on prend l'avion. Et puis, de l'autre côté, il y a l'engagement, effectivement, qu'on a, au niveau notamment de tout ce qui est outils de sensibilisation mis à disposition du WWF hein, pour pouvoir faire passer des messages. Et si les deux peuvent sembler parfaitement cohérents, ils doivent cohabiter. Et c'est l'équation un peu délicate que tout un chacun avons à résoudre.
Et oui, et ils ont pris l'avion, tous ces joueurs, les deux équipes et leur staff sont en route pour Paris pour jouer le championnat de France le week-end prochain.
Merci beaucoup Annie, bon retour à Paris vous aussi, et tant pis pour le bilan carbone, parce qu'on vous attend. Et oui, Radio Foot International reprend dès ce vendredi 9 août pour une 10e saison qui s'annonce encore très riche à n'en pas douter. Direction l'Espagne maintenant, où le championnat là-bas ne reprendra que dans 2 semaines, mais où l'intersaison reste un petit peu agitée entre crise de résultats au Real Madrid et crise de présidence à Valence. Ça bouge de l'autre côté des Pyrénées. On retrouve notre correspondant. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alerte rouge, comme le titrait AS il y a une dizaine de jours, le Real qui enchaîne les mauvaises nouvelles et les mauvais résultats inquiétants hein, sur cette pré-saison.
Bilan assez mauvais sur ses premiers matchs amicaux, 5 rencontres déjà de jouer pour le Real. Seule une victoire contre la faible équipe turque du Fenerbahçe, 16 buts encaissés et toujours ces questions. Que vaut cette défense? Que vaut ce milieu très vieillissant? Au final, l'inquiétude progresse chez les socios, toujours inquiétés par ce 7-3 contre l'Atlético de Madrid. Des socios qui, quand on leur parle, nous expliquent qu'ils ont très peur de revivre encore la saison cauchemardesque de l'an passé. Bref, une pré-saison qui n'a jamais été autant commentée, autant scrutée et qui paraît contrastée avec un Zidane critiqué et même traité d'entraîneur lambda. Mais pas de quoi s'inquiéter pour le latéral gauche espagnol Dani Carvajal qui résume un peu le sentiment que l'on a du côté du club.
Nous jouons des matchs de préparation qui sont des matchs pour retrouver la forme, pour avoir des sensations. Mais au final, nous devons nous préparer pour le premier match de championnat contre le Celta et essayer de prendre 3 points. Maintenant, je crois que l'entraîneur est en train de tester de nouveaux joueurs, d'essayer de nouveaux systèmes de jeu, il essaye un peu tout. Et bon, comme je vous ai dit, nous voulons arriver avec le maximum de garanties de victoire pour le début du championnat, le 17 août.
Et le Real qui devrait être encore actif sur le marché des transferts, Pierre, dans le sens des départs et aussi celui des arrivées.
Deux noms reviennent depuis plusieurs jours, le néerlandais de l'Ajax, Donny van de Beek. Le Real et Amsterdam discutent sérieusement pour l'arrivée du joueur. C'est Donny van de Beek qui vient de le déclarer ce soir à la télévision. Un peu surprenant, hein, van de Beek, parce qu'il a le profil d'un Dani Ceballos à qui on a prié de voir ailleurs à l'intersaison et qui est prêté du côté d'Arsenal. Le club qui assure en off hein, que ce transfert ne freinerait pas l'arrivée de Paul Pogba, le champion du monde veut jouer à Madrid sous les ordres de Zidane. Et ben ça tombe bien, Zidane le veut absolument, au point qu'il n'arrête pas de parler de lui aux décideurs du Real depuis son retour en mars. Un vrai lobbying qui, si vous vous en souvenez, avait débuté dès la fin avril. On écoute Zinedine Zidane.
J'aime beaucoup le joueur, je le connais personnellement, donc c'est pour ça que j'en parle naturellement. C'est un joueur qui est vraiment différent, vraiment quelqu'un qui apporte ce que peu de joueurs apportent sur un terrain de foot. Il est capable de tout faire, et ça, il y a beaucoup de joueurs, des milieux de terrain qui savent très bien défendre, il y a des milieux de terrain qui savent très bien attaquer, il y a des attaquants qui savent bien faire une chose, il y a des défenseurs qui savent, lui, il sait tout faire. S'il doit avoir une autre possibilité de faire quelque chose après Manchester United, pour lui, il a toujours dit que Madrid, c'était un club... qui l'intéressait beaucoup, mais il a toujours dit hein, que c'était après son expérience Manchester United, pourquoi pas cette possibilité-là.
Et le feuilleton Pogba que suit attentivement la presse de ce côté-ci des Pyrénées, on suit aussi les mouvements de la famille Pogba, les frères de Paul. Mathias a signé dans un club de 3e division espagnole, Ciudad Real, à 200 km au sud de Madrid, alors que selon AS, Florentin, ancien joueur de Saint-Etienne, lui s'est proposé à Fuenlabrada, club de la région de Madrid, promu en 2e division. Côté départ, le Real cherche absolument à se débarrasser de Bale, en vain pour le moment. Actuellement, il y a 28 joueurs sous contrat. Seuls 25 peuvent être enregistrés par la Ligue de football en Espagne.
Alors, au Real, des questions, alors qu'à l'Atlético, tout va bien.
Oui, avec une victoire ce soir au Mexique contre l'Atlético San Luis, match difficile sous la chaleur et après une énorme préparation physique entre l'Espagne, les États-Unis et le Mexique. Nouveau succès, le 4e en 5 matchs. Et pourtant, on avait un peu peur hein, du côté de l'Atlético avec les départs de cadres comme Godin, Philippe Luis, Juan Fran et surtout Antoine Griezmann. Mais au final... tout va bien, la tournée d'été a été très positive.
Avec un petit phénomène en plus qui est portugais et qui porte le numéro 7, João Félix.
Oui, avec João Félix, l'Atlético possède une mine d'or, c'est pas moi qui le dis. C'est Marca, le premier quotidien espagnol, qui reprend un peu le sentiment général ici. On est tous on adore João Félix ici en Espagne. En moins d'un mois, celui qui a été acheté 127 millions d'euros séduit tout le monde. Pour ceux qui sont habitués aux jeux de football sur console, ce n'est pas forcément une grande surprise, mais le Portugais, même pas 20 ans, a déjà trouvé ses marques. Il sera le joueur à suivre cette année en Liga.
Et puis en quelques mots, Pierre Valence qui a évité une crise cette semaine.
Oui, ça couvait depuis pas mal de temps, ce vaudeville sauce valencienne, sur fond de bataille d'influence au sein du club. Trois personnages, Peter Lim, le propriétaire, Matteo Alemany, le directeur général, et Jorge Mendes, le fameux agent de joueur. Jorge Mendes voulait prendre un peu plus de pouvoir, puisqu'il a l'oreille du propriétaire. Alemany était contre et avait mis sa démission dans la balance. Au final, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alemany reste, mais fait des concessions.
Merci beaucoup Pierre Chaperon en direct de Madrid pour toutes ces précisions sur l'Espagne. Pour être tout à fait complet sur les résultats européens, sachez que le Borussia Dortmund a remporté ce soir la Supercoupe d'Allemagne en battant le Bayern Munich 2-0. Allez, on passe au foot en Afrique avec vous, Thomas Moulin. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Ça va être assez court ce soir puisque ça se résume en fait au premier tour des éliminatoires du CHAN 2020.
Oui, il y avait 5 affiches au programme aujourd'hui. Dans la zone ouest, le Sénégal recevait le Liberia, des Lions sous pression après la défaite 1-0 du match aller, mais qui ont parfaitement réagi. Victoire des Sénégalais, 3-0. Un succès construit en seconde période. La satisfaction du gardien et capitaine des Lions, Pape Seydou Ndiaye, au micro de notre correspondant Babacar Fall.
Vraiment, on est très très content de cette victoire. Donc l'essentiel a été fait. Ce n'est pas de perdre là-bas 1-0 que le boulot est terminé. Donc on s'est ressaisi et faire les choses comme il le faut. Et c'est ça qui a payé aujourd'hui. Surtout la première mi-temps, on s'est rectifié au niveau des adversaires. C'est pour cela que dès la deuxième mi-temps, on les a pris haut et ça, c'est ça qui a payé. On se contente de cette qualification. On va rentrer tranquillement pour pouvoir les préparer.
Et pour une bonne préparation, il faudra tirer les leçons de cette première période, durant laquelle les Sénégalais ont manqué de réalisme. Leur attaquant Youssouf Badji, soulagé à la fin du match.
On s'est précipité. Dieu merci, on s'est rattrapé durant la deuxième période. On nous a motivés parce qu'un match ne se termine pas sur 45 minutes, c'est sur 90 minutes. Donc, durant la mi-temps, ils nous ont motivés et Dieu merci, on a pu concrétiser nos occasions. Je peux dire au-dessus parce qu'on pouvait les battre plus que ça. Mais peut-être on a un peu manqué de lucidité.
On va jouer la Guinée, avec la Guinée, mais avant ça, on reste sur notre travail, continuer à travailler pour bien entamer ces matchs à venir.
Youssouf Badji, toujours au micro de Babacar Fall. Vous l'avez entendu, au deuxième tour cet automne, les Sénégalais affronteront la Guinée, tombeuse des Lions à ce stade de la compétition il y a 2 ans. Autre résultat à l'ouest, la victoire étriquée de la Mauritanie, 2-1 contre le Cap-Vert. Les Morabitoun devraient retrouver au tour suivant le Mali, qui reçoit demain la Guinée-Bissau. Les Aigles, facile vainqueur à l'aller 4-0. Mali-Mauritanie, la même affiche que lors des qualifications de l'édition précédente et un remake de la dernière CAN. Souvenez-vous, les Maliens avaient infligé en phase de groupe un sévère 4-1 aux hommes de Corentin Martins. Dans la zone centrale est, l'Ouganda a écrasé la Somalie 4-1. Les Cranes, déjà vainqueurs 3-1 à l'aller, attendent désormais leur prochain adversaire, le Sud-Soudan, ou plus vraisemblablement le Burundi, après son succès 2-0 du match aller. Et enfin, dans la zone sud, où l'on dispute déjà le deuxième tour, la Zambie, est venue péniblement à bout du Botswana, 3-2. Elle attend toujours son adversaire, l'Angola ou l'Eswatini, actuellement au tir au but. À suivre parmi les affiches de demain, le Togo reçoit le Bénin au stade de Kégué à 16h temps universel, 0-0 à l'aller à Porto Novo. Dans la zone centrale, pour son retour à la compétition continentale, le Tchad se mesure à la Guinée équatoriale, 3-3 lors du premier match. Enfin, on aura un œil sur les rencontres du deuxième tour de la zone sud. Ballotage favorable pour les Baréas de Madagascar face au Mozambique après leur succès 1-0 à l'extérieur. Mission beaucoup plus compliquée en revanche pour les Comores opposés à la Namibie. Les Sélacantes battus 2-0 au match aller.
Si vous nous êtes fidèles, vous vous souvenez sans doute du reportage dans le Mondial Sport du week-end dernier consacré à Ons Jabeur, la joueuse de tennis tunisienne actuellement en pleine tournée nord-américaine avant le début fin août de l'US Open. Avec le Sud-Africain Kevin Anderson chez les hommes, elle est l'une des très rares figures d'un tennis africain qui peine toujours à se faire une place sur le circuit principal. Les raisons sont hélas connues, pas assez de structures et de formateurs pour faire émerger des grands champions issus du continent. Voilà pourquoi un nouveau et vaste plan de développement lancé par la Fédération française et la nouvelle association des fédérations francophones de tennis vise à changer les choses grâce aussi au savoir-faire d'une organisation mondialement connue, celle de Roland-Garros. Reportage Eric Mabrut.
Roland-Garros débarque en Afrique avec à sa tête le vice-président de la Fédération française de tennis, Daniel Chausse. La volonté de la FFT est d'aider au développement de la petite balle jaune dans les pays francophones du continent. Son projet comprend la création de 2 académies, au Sénégal et au Bénin. Des académies qui serviront de rampe de lancement à la naissance un peu partout en Afrique de clubs de tennis estampillés Roland-Garros. Explication avec Daniel Chausse.
Les académies sont indispensables parce que ce sont des lieux de rassemblement. Le modèle, pour résumer, c'est l'accueil des jeunes élites et la formation des jeunes élites, l'accueil et la formation des cadres sportifs, des cadres administratifs, dont les clubs ont absolument besoin pour se développer. Il faut des lieux d'enseignement, si je puis dire de manière générale, pour que les clubs viennent se sourcer et après assurer sur leur territoire où il n'y a pas d'académie, viennent se sourcer donc dans les académies pour développer les clubs Roland-Garros. Les clubs Roland-Garros n'ont pas la charge aussi lourde de la formation à l'égard des jeunes élites comme des cadres. Non, les clubs, ce sont des clubs comme on en trouve beaucoup en France, des clubs où on joue au tennis. Simplement, il faut qu'on joue au tennis sur de la terre battue en partie, en tout cas au moins, puisque ils vont être labellisés si cette condition est remplie. Il faut qu'on joue au tennis dans un club qui est structuré, donc on connaît la gouvernance, qui est repéré, donc on sait qui dirige, on sait pourquoi. Et puis un club de tennis où il y a un lieu de vie en général. Et puis il faut surtout une école de tennis.
L'exigence, le savoir-faire de Roland-Garros pour développer en Afrique le jeu sur terre battue. La première académie naîtra ainsi dans la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar. Elle comprendra 19 cours, dont un central de 400 places, des lieux de vie et un sport-études. Le tout destiné aux futurs champions de l'espace francophone âgés de 10 à 13 ans. Tennis et éducation à l'image de l'académie de football des Diambars de Dakar. Voilà un outil indispensable pour le développement du tennis en Afrique subsaharienne notamment, comme le précise le président de la Fédération sénégalaise, Issam Boup.
L'Afrique francophone subsaharienne est déjà la première cible parce qu'on s'est rendu compte que c'est elle qui a le plus besoin d'infrastructures. Je vous donne un exemple. Moi, au Sénégal, nous avons à peu près 1500 licenciés. Vous me direz que ce n'est pas trop grand, mais est-ce que si je vous dis, que vous comprendrez que je vous dise que nous n'avons pas un seul coup en terre battue. Donc c'est ce dysfonctionnement, cette disparité que nous voulons combler.
Le modèle, c'est Diambars ?
Il ne va pas s'éloigner trop de Diambars, parce que Diambars a été un modèle très réussi. Je me propose dans mon programme de prendre contact avec M. Saher Sek, qui est un ami et que je trouve être un modèle en matière de gestion. Et donc nous avons besoin un peu de ses références pour pouvoir faire la même chose et réussir ce qu'il a fait au Sénégal, qui est extraordinaire.
La récente attribution des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022 au Sénégal a servi d'accélérateur à la création de cette académie de Diamnia Diop. Conséquence directe, le Comité international olympique et l'État sénégalais financeront ces installations qui abriteront les épreuves de tennis de ces JOJ. Le financement public sera en revanche beaucoup moins important pour la deuxième académie qui doit voir le jour au Bénin, sur la route des pêches du côté de Ouida. Séduire des partenaires privés est donc indispensable. Pour cela, le label Roland-Garros est un atout précieux. Daniel Chauss.
Le label, c'est vraiment notre élément fort de séduction. Dès lors que vous arrivez, que vous représentez notamment la FFT et pas simplement la fédération du pays où vous vous trouvez, et que d'autre part, vous mettez en avant l'idée des clubs labellisés ou labellisables Roland-Garros, c'est vrai qu'on vous regarde autrement. Parce que Roland-Garros, y compris depuis l'Afrique subsaharienne, ça représente quelque chose de fort.
Pour convaincre davantage encore et rendre sa démarche beaucoup plus forte, la FFT œuvrait début juin à la création d'une association regroupant les fédérations francophones de tennis du monde entier. L'A2FT, dont Daniel Chauss est le président, comprend une vingtaine de pays africains, celle du Bénin dirigée par Jean-Claude Talon.
Lorsque nous venons avec le poids de l'A2FT, des portes peuvent s'ouvrir. Avec le couvert, la caution de l'A2FT, déjà la visibilité, l'appréciation par les investisseurs ou les contributions qui peuvent venir est déjà meilleure. D'une part, vous doutez bien qu'elle a aussi pour ambition de collecter des fonds. Mais vous savez, il ne s'agit pas de faire vivre l'académie exclusivement sur la fonction de l'entraînement de l'élite. Non, ce sera également un club qui s'insérera dans la vie des habitants, dans son voisinage. Et je pense que ce genre d'implantation vont encourager et faciliter la promotion du tennis dans tout le pays.
L'Académie béninoise devrait voir le jour d'ici 2022. En parallèle, des clubs estampillés Roland-Garros seront donc créés un peu partout en Afrique francophone. Celui d'Abidjan sera le premier. Implanté sur les installations de l'Hôtel Ivoire, elle comportera 11 cours, des boutiques, des restaurants, en plus de son école fédérale. Et pour offrir un apprentissage à la terre battue de qualité, la 2FT fournira les formateurs. Le président de la Fédération ivoirienne, Georges Gohan.
Nous avons des formateurs qui sont aujourd'hui formés par la Confédération africaine de tennis et la Fédération internationale de tennis, mais on aura besoin de formateurs qui sont vraiment spécialisés en matière de terre battue. Pour cela que la francophonie va nous permettre d'avoir donc ces formateurs-là. Nous allons faire la demande, et puis la Fédération française de tennis qui, je faillis dire, est la maison mère, pour ainsi dire, de la terre battue, va nous fournir donc des encadreurs, des formateurs.
Des formateurs étrangers qui transmettront donc leur savoir aux techniciens locaux. L'objectif de tout cela étant d'augmenter le nombre de joueurs de tennis africains et de voir pourquoi pas l'un d'entre eux remporter un jour Roland Garros.
Et après la prospective et les projets sur le long terme, un petit mot sur l'actualité chaude du tennis avec les demi-finales masculines du tournoi de Washington à suivre cette nuit. La tête de série numéro 1, le grec Stefanos Tsitsipas face à l'Australien Nick Kyrgios. Puis l'autre demi-finale entre le russe Daniil Medvedev et l'allemand Peter Goyovcic. Du tennis, on passe au cyclisme avec une famille qui fait décidément honneur à la discipline en Afrique, la famille Debessay. Après ses frères Fregalsi et Mekseb et sa sœur Moshana, Jacob Debessay est l'un des grands espoirs du cyclisme africain, Thomas.
Oui, le jeune érythréen s'est particulièrement signalé en début d'année. Il a notamment reporté le classement général du Tour de l'Espoir, une course de 5 jours organisée au Cameroun et réservée aux coureurs de moins de 23 ans. À son palmarès, également l'avant-dernière étape du Tour du Rwanda, une épreuve qu'il a terminé à la fois meilleur jeune et meilleur grimpeur. Les progrès de Jacob Debessay sont fulgurants, lui qui s'entraîne au Centre mondial du cyclisme à Aigle en Suisse, à tel point qu'il a signé fin juillet un contrat de stagiaire avec FDJ Continental, l'équipe réserve de la formation française Groupama FDJ. Avec nous pour en parler son directeur sportif, Jérôme Gana. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors comment vous avez repéré Jacob Debessay ?
Ben, on va dire comme une grande majorité de coureurs, hein, on scrute tous les résultats, que ce soit aussi bien les résultats africains, sud-américains et puis bien sûr européens. Et puis voilà, on sait aussi qu'il a un passé familial dans le cyclisme et qu'il a fait aussi quelques piges au Centre mondial du cyclisme. Et puis voilà, on pense que c'est un coureur intéressant. Mais notre premier, on va dire, repérage se fait au niveau des résultats qu'on lit, surtout les sites internet. Quoi.
Sur quelle course comptez-vous l'aligner ?
Pour nous, on l'a engagé en tant que stagiaire. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que lui aussi a un programme avec le Centre mondial du cyclisme. Et certainement après les championnats du monde, je pense qu'il va faire une partie des courses aussi, peut-être avec notamment le Centre mondial du cyclisme autour de l'avenir. Donc il va faire que quelques courses avec nous, pour l'instant il n'y en a que deux qui sont programmées. Quoi.
Quelles sont-elles ?
Donc ça va être le Grand Prix de Nogent et le Tour du Jura suisse.
Est-ce que vous êtes attentif aux courses africaines ? On sait notamment qu'il a gagné une étape du Tour du Rwanda cette année.
Oui, il a gagné une étape du Tour de Rwanda. Il a gagné aussi la course de l'espoir, qui était une Coupe des Nations, on va dire, réservée au pays où le cyclisme est un peu moins développé. Voilà, on le suit. Après, on sait très bien aussi que ça va être compliqué de s'adapter aux courses européennes. Mais voilà quoi. Maintenant, on essaie de s'ouvrir, quoi, en tout cas l'équipe avec l'équipe Groupama FDJ, avec l'équipe continentale, hein, qui est une équipe de développement, de réserve, de formation. On essaye de recruter des espoirs dans tous les continents et puis aussi s'ouvrir maintenant au continent africain, qui sera une première pour l'équipe.
Est-ce que justement vous le pensez capable de s'adapter au cyclisme européen ? C'est souvent ce qui fait défaut un petit peu aux coureurs africains.
Oui, voilà, et ça va pas être tout à fait les mêmes courses, par exemple autour d'un Rwanda ou la course de l'espoir. Mais je pense que s'il a les capacités physiques de s'adapter, et puis après nous on essaie de créer aussi un environnement qui est favorable, hein, c'est-à-dire que l'ensemble des coureurs sont hébergés dans la région de Besançon, l'ensemble des déplacements se font aussi par équipe, il y a des entraînements par équipe. Au niveau du climat, ça va être aussi un petit peu compliqué puisqu'on habite dans l'est de la France, donc mais voilà quoi, on est là aussi que ce soit tout le staff, que ce soit entraîneur, directeur sportif aussi, pour accompagner tous les coureurs vers le haut niveau.
Au niveau aussi tactique, j'imagine qu'il y a une progression qui est possible.
Oui, alors, ben, bien sûr. Après, au niveau érythréen, on pense toujours à Daniel Teklaminot, aussi à Nathaniel Berhan, qui sont très bien adaptés, qui sont des très bons coureurs, quoi. Donc, nous, on espère découvrir un bon grimpeur qui puisse s'adapter. Alors, je pense que le relationnel sera aussi important, qu'il ait confiance au staff et puis qu'il se sente bien dans notre équipe.
Vous pensez qu'il a les capacités pour aller au-dessus, c'est-à-dire l'équipe première, la FDJ ?
L'objectif de notre équipe, c'est vrai, c'est que, on va dire, les coureurs de l'équipe continentale puissent après évoluer au niveau World Tour. Alors, on sait qu'il y en aura peut-être un, deux, trois maximum par an. Après, pour l'instant, on ne peut pas dire. Bon, il y a quand même encore quelques années dans la catégorie espoir. Donc, on va voir dans le temps. Et, alors, en tout cas, moi, je le souhaite, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on part un petit peu dans l'inconnu, mais on a envie de travailler ensemble pour qu'il puisse évoluer à son meilleur niveau.
Jérôme Gana, le directeur sportif de la Conti Groupama FDJ, l'équipe réserve donc de la formation dont le leader, on le rappelle, est Thibaut Pinot. Les héros du Tour de France, sont un petit peu fatigués. Ça s'est vu à l'occasion aujourd'hui de la Classica San Sebastian, la première épreuve labellisée World Tour de l'après-Grande Boucle. Deux des vedettes de l'édition 2019, le vainqueur Egan Bernal et Julien Alaphilippe maillot jaune, pendant 14 jours y étaient inscrites, mais les jambes n'y étaient pas du tout, ils ont tous les deux abandonné. La course a été remportée par le jeune belge de 19 ans, Remco Evenepoel, de la formation de Koenigs Quickstep, celle justement de Julien Alaphilippe. Deux autres infos avant de se séparer: la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie demain, première pole position de sa carrière pour le néerlandais Max Verstappen. Le pilote Red Bull a devancé le Finlandais Valtteri Bottas lors de la troisième séance des qualifications. En deuxième ligne, le quintuple champion du monde britannique Lewis Hamilton. Et puis la disparition de Jean-Claude Boutier à l'âge de 74 ans, le boxeur deux fois champion d'Europe des poids moyens. Il avait tenté le titre mondial à deux reprises en 1972 et 1973 face à l'Argentin Carlos Monzon. Mondial Sport, c'est terminé pour ce soir. Merci Alice Ménard pour la réalisation. On se retrouve demain à la même heure et dans un instant 24 heures en France avec Clément Fraioli.